les deux mots migration et citoyenneté, qu'il faut que je mette l'un en face de l'autre, appartiennent pas du tout à la même branche du savoir. Migration, migrant, ça, c'est un mot de démographe. Citoyenneté, c'est un mot de philosophe politique. Donc, on est vraiment dans le transverse, quoi, ou dans le transversal, pour faire plaisir à vos professeurs. Et les migrations, donc, sujet d'étude pour les démographes, peuvent être décrites à peu près objectivement. Au problème de méthode, de dénombrement, près. Tandis que la citoyenneté, ça ne peut pas se définir d'une manière qui est la même selon les auteurs, selon les personnes. La confrontation donc entre une notion relativement objective et une notion qui est variable selon ceux qui l'utilisent n'est vraiment pas très très commode. Pour organiser cette confrontation, il m'a paru utile, alors j'essaierai de vous le démontrer, d'utiliser un troisième mot, un troisième concept, qui est le mot intégration. Malheureusement, ce troisième concept présente lui aussi des inconvénients. L'inconvénient d'être un mot d'une troisième branche du savoir, la sociologie. Et puis l'inconvénient aussi d'être un mot qui est utilisé dans la vie politique. Mais quand même, l'intégration m'a paru être un bon passeur entre l'émigration et la citoyenneté. Je m'explique. Le migrant, on verra ce que ça veut dire tout à l'heure. L'immigrant, je fais exprès d'utiliser des mots différents. L'immigré, est-ce qu'il est un citoyen à part entière ou bien est-ce qu'il est un citoyen entièrement à part? S'il est bien intégré, c'est un citoyen à part entière. S'il est mal intégré, c'est un citoyen entièrement à part. C'est un peu schématique ce que je vous dis, c'est simplement pour vous montrer l'usage que je fais du mot intégration pour organiser la confrontation entre migration et citoyenneté. Si le migrant, l'immigré, l'immigrant est bien intégré, c'est un citoyen à part entière. Mais quelle est la condition pour que un homme ou une femme venue d'ailleurs soit bien intégré dans la société d'accueil? Je pense que la réponse que je vais vous faire va vous surprendre. Mais j'essaierai de la justifier pendant les 30-40 minutes qui vont venir, si vous tenez le coup jusque-là. L'intégration à la société dépend beaucoup de l'intégration de la société. Pour prendre une image et m'aider à vous transférer ce que je veux dire, je vais vous demander par l'imagination d'ouvrir le placard de votre chambre que je compare à une société. Supposons que vous ayez envie de ranger dans le placard de votre chambre, alors ça, vous choisissez l'objet que vous voulez, ça m'est totalement égal pour ma démonstration. Une paire de lunettes, un jean. Il y a deux solutions. Ou c'est le bordel dans votre placard, et vous aurez du mal à ranger votre paire de lunettes ou votre jean. Ou le placard est merveilleusement bien rangé, et vous arriverez sans trop de mal à placer votre paire de lunettes, à moins que vous renonciez, que vous jetiez. Donc c'est ça que je veux dire. L'intégration de la société, c'est-à-dire le placard bien rangé, c'est une condition pour l'intégration à la société, c'est-à-dire le rangement dans mon placard de ma paire de lunettes ou de mon jean. Un peu facile. Un peu facile parce qu'il faut tout de suite montrer la limite de la comparaison. Comparaison n'est pas raison. La limite de la métaphore. C'est quoi? Bah, c'est que dans la confrontation de la lunette et du placard, c'est la confrontation de deux objets qui sont inanimés. Tandis que la confrontation du migrant qui veut s'intégrer de la société, c'est plein de mouvements, c'est plein d'hommes, c'est plein d'incertitudes. Alors j'écarte tout de suite de côté le mal dont votre paire de lunettes ou dont votre jean ne souffrira jamais, à savoir que j'ai affaire à quelqu'un qui est un peu zinzin. Mais ça, ça n'a rien à voir avec la migration. Il est sûr que si quelqu'un est un peu zinzin, il a du mal à s'intégrer. Donc ça, on ne va pas en parler. Ça m'obligerait à faire appel à une quatrième branche de la connaissance dans laquelle je suis radicalement incompétent, la psychologie. Donc on va laisser ça de côté. Et on n'aura donc plus que trois branches du savoir, mais croyez-moi, c'est déjà beaucoup. La démographie pour les migrations, la philosophie politique pour la citoyenneté, et l'intégration pour la sociologie qui va nous servir d'organiser le dialogue entre migration et citoyenneté. Et dans un premier temps, eh bien, excusez-moi, on définira ensemble, je sais que vous l'avez déjà vu, mais il faut qu'on soit d'accord sur les termes, la citoyenneté, ça ne durera pas longtemps, vous inquiétez pas, pour un philosophe de la politique, je dis bien pour un philosophe de la politique, qu'est-ce que c'est que la citoyenneté pour un philosophe de la politique? Et ce que sont les migrations dans la France d'aujourd'hui, j'aurais pu prendre le monde, j'aurais pu prendre l'Europe, je prends la France d'aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi dans un instant, ce qu'elles seront dans la France de demain, selon les démographes. Alors pourquoi j'ai pris la France? Parce que si je n'avais à traiter que des migrations, ça me serait complètement égal de parler de la France, de l'Europe, du monde. Partout, c'est finalement les mêmes définitions, les mêmes concepts. Ce ne sont pas les mêmes nombres, ce ne sont pas les mêmes chiffres, mais c'est la même réalité. Tandis que la citoyenneté, selon que vous êtes allemand, roumain, français, espagnol, italien, ça ne sonne pas pareil. Ça ne réveille pas en vous, supposez que ça éveille quelque chose, les mêmes réactions. Donc c'est pour ça que j'ai pris le cas français. Puis dans une deuxième partie, après avoir défini avec vous la citoyenneté et les migrations, eh bien, je confronterai les données de la démographie, c'est-à-dire les perspectives démographiques de la France aux conditions d'intégration qui sont faites aux migrants dans ce pays en utilisant toutes les ressources du concept d'intégration. Et ça me conduira successivement, premièrement à préciser un peu ce concept, donc à faire quelques emprunts à la sociologie. Fondamentalement, notre réunion de ce matin, ça se rattache à l'éducation civique, juridique et sociale. J'ai lu les instructions du ministère de l'Éducation nationale et on m'a bien expliqué que l'instruction civique, l'éducation civique, juridique et sociale n'était pas en soi une matière, qu'elle devait utiliser des éléments qui vous sont dispensés dans les cours de philo, d'histoire, de géographie, de sciences sociales, d'économie, etc. N'empêche qu'il y a des trous. On ne vous enseigne pas le droit, on ne vous enseigne pas la sociologie. Et le sujet que je vous traite, j'ai beaucoup de mal à le traiter sans un minimum de droit, sans un minimum de sociologie. Et l'un des avantages de l'Université de tous les savoirs qui travaille la main dans la main avec vos enseignants, c'est d'apporter ces petits compléments qui vous apportent également très bien eux-mêmes, mais pas à l'occasion en tout cas des cours et des programmes officiels. Donc c'est pour ça que dans ma deuxième partie, il y aura d'abord quelques mots sur ce qu'est l'intégration pour un sociologue, et c'est pas la même chose pour un homme politique, et c'est pas la même chose dans une conversation de café. Puis deuxièmement, on parlera de l'intégration à la société d'accueil. Alors là, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, alors pour essayer de vous distraire, et aussi pour essayer de vous faire sentir les difficultés des questions, je parlerai aussi bien de l'interdiction du port du voile à l'école que de la question de savoir si on peut être à la fois polygame et intégré à la société française. Puis ensuite, on verra l'intégration de la société d'accueil. Donc, je me répète, dans une première partie, migration et citoyenneté. Citoyenneté, qu'est-ce que c'est pour un philosophe politique? Migration, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les principales données? Dans une deuxième partie, j'organiserai la confrontation entre les perspectives démographiques de la France et l'intégration des migrants. Je le ferai en trois parties. Premièrement, en précisant du point de vue sociologique le terme d'intégration. Deuxièmement, en vous parlant de l'intégration à la société d'accueil. Et troisièmement, en vous parlant de l'intégration de la société d'accueil. Maintenant, si vous en avez marre, arrêtez d'écouter. Finalement, je pourrais m'arrêter là. Je vous ai pratiquement tout dit. Mais on m'a demandé de parler plus que ça. Alors, je vais le faire. Donc, première partie, citoyenneté et migration. Citoyenneté, moi, je suis parti du cahier du lycéen citoyen, édition Magnard. Évidemment, je ne fais pas de publicité. Et c'est merveilleux. Alors, on ne s'est pas marqué, mais la première chose qu'ils auraient dû dire, c'est que la citoyenneté, attention, ça va être bouleversant, hein. C'est la qualité du citoyen. Bah, c'est ce qu'il faut commencer par dire. Hein. C'est pas évident de passer d'un mot à ET. La citoyenneté, c'est ce qui caractérise la qualité du citoyen. La charité, c'est ce qui caractérise une personne charitable. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un citoyen? Je lis Le Magnard. Le citoyen est celui qui participe activement à une communauté politique. Bon, c'est vrai. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'idée que certainement, citoyen, ça doit avoir un sens, qu'il y a quelque chose à voir avec la politique, puisque c'est celui qui participe à une communauté politique. Comment s'appelle cette communauté politique dans la tradition de la philosophie politique française? Cette communauté politique s'appelle la nation. Et je fais de la philosophie politique. Quelle est la principale caractéristique de la nation? Quand vous ouvrez un dictionnaire de philosophie politique, vous voyez que le concept de nation est un corrélat, ou un copain, si vous préférez, du concept de souveraineté. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté? Qui est souverain ici? Qui est souverain ici? Monsieur le proviseur. Et pourquoi il est souverain? Parce qu'il a le droit, évidemment en vous consultant, en respectant un certain nombre de formes, de fixer le règlement qui s'applique sur le territoire du lycée. Pas tout seul. Je vois qu'il y a des anarchistes là. Évidemment, pas tout seul. Mais fondamentalement, la souveraineté, c'est le pouvoir de fixer des règles sur un territoire donné. C'est ça la souveraineté. Dans une bande, vous avez un souverain, c'est celui qui a le pouvoir de fixer les règles de la bande. Alors, et le citoyen, il participe à une communauté, la nation est souveraine, la nation, ça veut dire que la nation, elle a la capacité de fixer les règles sur son territoire, le territoire de la nation. Ça vient d'où, ça? Ben, ça vient de la fin du XVIIIe siècle. Alors, pardonnez-moi, je ne peux pas ne pas être parfois un peu abstrait. C'est pas de ma faute. D'ailleurs, les réalités aujourd'hui sont faites des abstractions d'hier. Et ce sont les choses fumeuses aujourd'hui qui préparent les réalités de demain. Donc, n'hésitons pas, de temps en temps, à plonger dans l'abstraction. Le grand problème à la fin du XVIIIe siècle, à la période de la Révolution française, c'était un problème d'Agence nationale de l'emploi. Le roi venait de perdre son job. Il était souverain. Il fallait le remplacer. Eh bien, on l'a remplacé par un concept. C'est ça qui est compliqué à comprendre. Le roi, il avait un physique. Regardez la reine d'Angleterre, elle a un physique, elle a une couronne sur la tête. N'importe qui l'identifie. Mais quand vous remplacez un être de chair et d'os par un concept, vous ne pouvez pas ne pas vous dire que c'est abstrait et difficile à comprendre. On a remplacé le roi par la nation. Qui est-ce qui a fait ce coup pendable? Un curé défroqué. Il s'appelait Sieyès. Je suis sûr que vous le connaissez. S-I-E, accent aigu, Y-E, accent grave, S. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un accent grave d'ailleurs. Il a écrit un petit livre, un libelle, quelques mois avant que ne débute la Révolution française, qui s'appelait « Qu'est-ce que le tiers état ?» Alors vous le savez parce que les profs d'histoire nous l'apprennent. Il y avait trois états, il y avait le tiers état, la noblesse et le clergé. Mais le tiers état, c'était rien avant la Révolution. Et Sieyès dit « Le tiers état, c'est tout. Le tiers, c'est la nation. Et la nation, c'est la souveraine. Donc, c'est celle qui va remplacer le roi. Le roi, il était souverain, ça veut dire qu'il avait la capacité de fixer des règles, de fixer les lois sur l'étendue du royaume. Eh bien, la nation va avoir la capacité de fixer des règles sur l'étendue du royaume. Et quand Sieyès parle de la nation, en fait, il veut faire un mauvais coup à son copain Jean-Jacques Rousseau, qui, quelques années avant, vers 1762, avait écrit le contrat social, et pour lui, c'était pas la nation, car je l'ai apporté, le contrat social. On parle pas de la nation dans le contrat social. Ce qui devait remplacer le roi, c'était le peuple. Le problème, c'est que vous ici tous, mesdemoiselles et messieurs, vous constituez un peuple, parce que vous n'êtes pas très nombreux. Et Jean-Jacques était un citoyen de Genève, d'une petite ville, où à la limite, bien que Genève était déjà plus grande qu'une cité grecque, on pouvait, surtout dans la cité grecque, on prenait bien soin, on était macho, pas bien ça. On enlevait les femmes, on enlevait les esclaves, même s'ils étaient bien traités, et puis on enlevait les étrangers, qu'on appelait les métèques. Alors évidemment, il ne restait pas grand monde. Et ce qui restait, on pouvait l'asseoir dans une salle de lycée. Pour tout lycée, c'est un mot grec. Hein. En tout cas, on pouvait l'asseoir sur les bancs d'un théâtre ou sur, on pouvait le réunir sur la place publique. Tandis que la France, en 1789, je vais peut-être me tromper, mais il y a plus de 20 millions d'habitants. Alors, je sais bien que tu as les enfants là-dedans, il y a les femmes, mais quand même, quand vous enlevez tout ça, il reste quelques millions d'habitants. Où est-ce que vous allez les réunir? Surtout qu'il n'y avait pas de micro à l'époque, il n'y avait pas de télé. Quel est l'homme qui avait la voix assez puissante pour pouvoir s'égosiller devant 10, 15 millions de personnes? Il n'y en avait pas. Donc, il a fallu inventer les représentants de la nation. Et ça, Jean-Jacques Rousseau, il voulait pas en parler. Il croyait pas aux délégués des élèves, Jean-Jacques Rousseau. Il croyait qu'à partir du moment où les élèves se faisaient représenter par des délégués, eh ben, ils allaient se faire rouler. Il croyait pas du tout à la possibilité pour le peuple d'être représenté. Donc, c'était le peuple qui était souverain. Et en inventant la nation, comme la nation, c'est pas le peuple, la nation, on la réunit nulle part, c'est une autre notion, c'est quelque chose de très bizarre. En fait, ça vient d'où? La nation, ça vient d'un verbe latin qui veut dire naître. La nation, c'est le fait de naître. Comme la nation, c'est le fait de donner. Et la nation réunit tous les gens qui sont de même naissance, de même origine. Bon, ça vous fait une belle jambe, tout ça. Hein, ça, c'est une définition étymologique. Et il faut que la nation soit représentée. Et la nation... Tous les citoyens sont membres de la nation. La nation est souveraine, donc un citoyen, c'est une miette de souverain. C'est un bout de souverain, c'est quelqu'un qui participe à la souveraineté. Et la souveraineté, c'est, je me répète une dernière fois, la capacité de déterminer la loi, de fixer les règles sur l'étendue d'un territoire. Bon, en voilà suffisamment. Maintenant, l'émigration. Alors ça, c'est plus facile. Hein. C'est plus facile. Bon, dernier mot. la définition que je vous ai donnée, c'est une définition de la philosophie politique. Il y en a d'autres. Mais j'emprunte à cette branche de la connaissance la philosophie politique. Maintenant, je vais m'intéresser à la démographie. Un certain nombre de définitions. Alors, excusez-moi, mais je ne discute jamais des noms pourvu qu'on m'avertisse du sens qu'on leur donne. C'est trop beau pour être de moi. C'est de Pascal. Alors je vais vous avertir du sens que je vais donner au nom. Premièrement, le mot migrant. Un migrant, c'est celui qui change durablement de résidence. Durablement, ça veut dire quoi? Ça veut dire au moins pendant un an. Qui est-ce qui a dit ça? Un bureau de l'Organisation des Nations Unies. Il y a une division de la population au sein de l'Organisation des Nations Unies qui essaye de normaliser les définitions. Donc un migrant, c'est quelqu'un qui change durablement de résidence, de lieu de résidence, de pays de résidence plus exactement. Et durablement, ça veut dire pendant au moins un an. En France, alors selon les démographes, parce que moi je ne suis pas compétent, il y aurait 80 millions de personnes qui rentreraient sur le territoire, mais pour autant, comme elles ne restent pas durablement sur le territoire, ce ne sont pas des migrantes. Et il n'y en aurait là-dessus qu'à peu près 200 000 qui entreraient chaque année pour rester durablement en France. Il y a une chose que je vous indique au passage, je ne vais pas vous la démontrer, les démographes le disent, c'est que, vous savez, il y a un grand débat. Vous me dites qu'il y en a 200 000 qui rentrent. Ouais, vous savez, il y en a peut-être 300 000. C'est que c'est poreux la frontière. Ça change rien tout ce que je pourrais vous dire. Qu'il y en ait 200 000, 300 000 ou 400 000, les chiffres, les conclusions vont rester à peu près les mêmes. Donc je vous ai dit qu'il y a évidemment un débat, c'est bien connu, mais il fallait que je le dise. Maintenant, un immigrant, c'est le migrant qui entre, alors on va dire en France, hein, pour y résider durablement. Tout à l'heure, j'ai dit migrant. C'est quelqu'un qui change, immigrant, qui rentre. Mais alors, je me place du point de vue français, donc im, qui rentre en France pour y résider durablement. Dans les immigrants, il y a des personnes qui ont la nationalité française. Parce que vous avez des Français qui vivaient dans un pays étranger et qui rentrent durablement en France. Ce sont des immigrants. Oui, il faut faire attention. Et puis évidemment, dans les immigrants, vous avez beaucoup d'étrangers. Dans les émigrants, ben c'est pareil, c'est des gens qui changent durablement de pays. Quand M. Sarkozy est allé à Londres, ça n'était pas un émigrant, parce qu'il n'y est pas allé pour plus d'un an. Un étranger, maintenant, c'est celui qui ne possède pas la nationalité du pays où il réside. Nationalité, alors ça on aura l'occasion d'y revenir. Là on fait du droit, hein. Tout à l'heure on faisait de la démographie pour définir immigrant, émigrant, migrant. Je m'intéressais à des concepts de démographes qui calculent des nombres de gens, qui estiment des populations. Étranger, tout de suite là c'est différent, c'est celui qui ne possède pas la nationalité du pays où il réside. Et je reviens à mes immigrants, dans mes immigrants, c'est-à-dire les personnes qui sont entrées un jour en France, qui ont franchi la frontière et qui y résident depuis plus d'un an, il y a toutes sortes de gens. Madame Sarkozy est une immigrante. Non. Il est né en France. Il est né en France. Il n'y a pas très longtemps, je rencontrais quelqu'un qui était un de mes professeurs, il s'appelle Stéphane Hessel, alors ça ne vous dit rien du tout. Il y a peut-être un film, Jules et Jim, ça vous dit quelque chose? Ouais? Non, bon. Il faudrait que je vous chante Jules et Jim, mais alors ça je peux pas. Je peux pas, c'est pas dans mon contrat. En tout cas, Monsieur Hessel, il n'est pas mort, il est né allemand. Il est aujourd'hui en retraite. Il a été ambassadeur de France. eh bien, c'est un immigrant. Et il n'y a pas très longtemps, dans une interview, il disait « Je me sens presque un immigrant ». Ben, il avait tort. Il est un immigrant pour un démographe. À partir du moment où vous êtes né à l'étranger, où vous entrez en France et où vous y êtes depuis plus d'un an, vous êtes un immigrant. C'est comme ça. Voilà. Alors, vous pouvez être un immigrant et avoir la nationalité française. Parce que depuis que vous êtes entré en France, vous avez pu acquérir la nationalité française. Monsieur Hessel a bien acquis la nationalité française. Voilà. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il faut faire très attention avec les mots. Alors, en ce qui concerne l'émigré, maintenant, c'est ma dernière définition, ben, c'est une personne qui est née non française à l'étranger, je l'ai déjà dit d'ailleurs, qui a franchi la frontière et qui s'est installé durablement dans un autre pays que la France. Un émigré. Voilà. Mais si vous allez, par exemple, si vous êtes français, si vous allez travailler à Londres pendant plus d'un an, vous êtes un émigré. Bon. Tout ça, c'est pas très compliqué, mais encore fallait-il le rappeler. Alors, les immigrés, je vais me concentrer là-dessus, les immigrés, c'est-à-dire ceux qui sont nés à l'étranger, qui sont entrés en France et qui y résident durablement depuis plus d'un an et qui peuvent avoir la nationalité française ou ne pas l'avoir, ils sont combien? Ils sont 5 millions. Et sur ces 5 millions, il y en a à peu près 2 millions, donc 40%, qui ont la nationalité française, et 3 millions qui ont diverses nationalités. Alors c'est déjà quelque chose d'assez intéressant, sachant que la population française aujourd'hui, c'est à peu près, je vais vous donner des gros chiffres à chaque fois, hein, 62 millions d'habitants. Si vous rapportez mes 5 millions d'immigrants à 62 millions, vous allez voir que c'est très grossier, ça fait moins de 10%, vous êtes d'accord, hein? Parce que 10% de 62 millions, ça fait 6 200 000. Donc comme je suis à 5 millions, ça fait moins de 10%, ça va faire 7-8%, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est moins de 10%. Pour vous donner une comparaison, en Allemagne, c'est 20%, en Suisse, c'est 28%, au Luxembourg, c'est 34%, et dans l'ensemble de l'Union européenne, de l'Union des 25, c'est bien supérieur à ce chiffre. Je dis ça parce que souvent, si vous posez la question à votre voisin, je ne sais pas si vous habitez au Bois-du-Verne, au Bois-Rouleau, au centre de Monceau, il va vous dire, si vous dites quel est le pays d'Europe où il y a le plus d'immigrants, il va vous dire c'est la France. Ah ben non. Mais si vous posez la question à un Allemand, il va vous dire c'est l'Allemagne. Si vous la posez la question à un Italien, il va vous dire c'est l'Italie. Je veux dire qu'il y a eu des enquêtes faites au niveau des pays européens. Chacun des pays européens a l'impression que l'endroit où il y a le plus d'immigrants, c'est son pays. Alors, en ce qui concerne la France, eh ben, on est vraiment, de ce côté-là, pas dans une position de tête. Voilà, ça c'était pour les définitions. Je suis toujours dans ma première partie. Je vous ai défini la citoyenneté. Je vous parle maintenant des migrations. Je vous ai énoncé les définitions. Et je voudrais maintenant voir avec vous quelle est l'importance des migrations dans la croissance de la population française aujourd'hui et demain. Alors la population française, elle croît de deux manières. Le béaba de la démographie. Elle croît premièrement, si les naissances sont plus nombreuses que les décès, la différence entre les naissances et les décès, ça s'appelle le solde naturel. Si le solde naturel est positif, la population va croître. Et puis deuxièmement, la population, elle croît, si les entrées, c'est-à-dire les immigrants qui viennent pour plus d'un an, sont plus nombreux que les émigrants, ceux qui sortent, pour plus d'un an. Et ça s'appelle le solde migratoire. Et donc ce que je voudrais voir avec vous, c'est quel est le rôle du solde migratoire, la différence entre ceux qui entrent et ceux qui sortent pour plus d'un an dans la croissance démographique française. C'est-à-dire le rôle des flux migratoires, ça s'appelle aussi comme ça. Donc, sachant qu'il y a excusez-moi, hein, mais je reviens. Donc, 62 millions d'habitants. C'est un 6 et un 2, hein, on ne voit pas très très clair. Alors, premièrement, on va s'intéresser au solde naturel. Je prends des chiffres très simplifiés. Il y a environ 800 000 naissances par an actuellement. Il y en a un peu moins, mais je simplifie. 800 000 naissances par an. Les décès, il y en a environ 540 000 par an. 800 000 naissances, 540 000 décès. Donc, le solde naturel, il est positif. Ça fait 260 000. Ça, c'est le solde naturel. À cela, il faut que j'ajoute, pour savoir comment se développe la population française, le solde migratoire. Eh bien, la différence entre les entrées et les sorties, il y a plus d'entrées que de sorties, c'est à peu près 100 000. Alors, je vous signale au passage que les démographes disent qu'on sait très bien calculer les entrées, qu'on a plus de problèmes pour calculer les sorties. On ne va pas rentrer dans ces détails, mais c'est important. Mais je vous redis ce que je vous ai dit tout à l'heure, même si c'était 200 000, ça ne changerait pas la démonstration que j'essaye de vous faire, bonjour madame, à la suite des démographes. Hein, c'est pas moi qui l'a fait, c'est pas une invention à moi. Donc ça veut dire que la population française croît tous les ans de 360 000. Et ça veut dire que là-dedans, sur 360 000, il y a 100 000, c'est-à-dire un peu moins de 30%. Il y a un prof de maths ici? Non? Bon, enfin vous calculerez. Il y a un peu moins de 30% de la croissance de la population qui est, merci beaucoup madame, imputable au solde migratoire. Dans l'Europe des 25, d'après les statistiques d'un organisme qui s'appelle Eurostat, actuellement, dans l'Europe des 25, le solde migratoire est responsable de, à concurrence de, écoutez, hein, 85% de la croissance de la population. Donc, le solde migratoire en France est responsable à concurrence de 30%, un peu moins, mais mettons 30% de la croissance de la population. Et dans l'Europe des 25, il est responsable à concurrence de 85% de la croissance de la population. Je pourrais vous dire encore autre chose, mais je veux tenir mes temps. Je n'insiste pas. Ça, c'est pour la place, le rôle du solde migratoire dans la croissance de la population aujourd'hui. Maintenant, je voudrais vous donner les informations essentielles sur la place de la croissance de la population dans les années à venir jusqu'en 2050, qui est due au solde migratoire. Alors, comment est-ce qu'on fait ce genre de projection en étant très simple, hein? Parce que moi, j'ai écouté des conférences de démographes, j'ai pas tout compris. Mais alors, j'ai essayé de simplifier. Quand on fait des projections, d'abord, premièrement, il faut repérer quelles sont les causes d'évolution de la population. Alors, on en repère trois. Premièrement, il y a les naissances, mais on ne dit pas les naissances, on s'intéresse au taux de fécondité. J'y reviendrai, hein. Premièrement, le taux de fécondité. Deuxièmement, on s'intéresse au solde migratoire. Alors ça, on l'a bien défini, j'y reviendrai pas. Et troisièmement, on s'intéresse à la mortalité. Alors, premièrement, on s'intéresse au taux de fécondité. En fait, attention, c'est un faux ami, parce que généralement, quand on parle des taux, c'est des pourcentages ou c'est des pour mille. Or là, tout faux, hein. C'est pas un pourcentage et c'est pas un pour mille. C'est le nombre d'enfants qui naissent dans une année qui est rapporté au nombre de femmes qui sont en âge d'avoir un enfant. Alors pour les démographes, mais j'espère que c'est pas que pour les démographes, c'est entre 15 ans et 49 ans. Donc le taux de fécondité, ben vous allez prendre, je sais pas, par exemple les 800 000 naissances, vous allez diviser par le nombre que je ne connais pas de femmes qui sont sur les territoires français. Merci. J'ai failli dire une bêtise. Qui ont entre 15 ans et 49 ans, et ça va vous donner un taux de fécondité de 1,9 enfants par femme. C'est là où je vous disais, attention, c'est un faux ami. Parce que me dites pas 1,9 pour 1000. Non. Et à la limite, on ferait mieux de parler de fécondité plutôt que de taux de fécondité. Alors, on va dire que c'est un indice. Voilà, très bien. Alors, c'est un indice de fécondité. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le solde migratoire. Bon, ça, vous le connaissez. Et troisièmement, la mortalité. Bon, ça, la mortalité, c'est le nombre de décès. Pour faire mes projections, les démographes, qu'est-ce qu'ils font sur ces trois données? Ils en fichent deux. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais quand j'étais en troisième, moi, on me faisait dessiner sur mes cahiers, pendant les cours de géométrie, des figures extraordinaires où je devais mettre en rouge ce qui était fixe et en bleu ce qui était mobile. Alors, si c'est toujours le cas, eh bien, vous allez dessiner en rouge le taux de fécondité, vous allez dessiner en rouge le solde migratoire, les deux sont fixes, et la seule chose qui va varier, c'est le taux de mortalité. Donc, si je dessine en rouge le taux de fécondité, c'est-à-dire je vais supposer que le taux de fécondité, qui est de 1,9 enfants par femme en âge d'avoir des enfants, va être le même jusqu'en 2050. Tout ça, vous pouvez contester, hein. C'est des exercices de prévision. Ensuite, je vais supposer que mon solde migratoire ne va pas bouger d'ici 2050. Je vous ai dit qu'il était tout à l'heure de 100 000. Hein, vous vous souvenez, c'est le même, hein. Je n'en sors pas un autre de mon chapeau. 100 000. Donc ça ne va pas bouger. Donc la seule chose qui va bouger, c'est la mortalité. Mais là, il faut que je fasse une hypothèse. Il faut que je fasse une hypothèse sur l'espérance de vie. Parce que chaque année, les survivants, ils ont l'espoir de vivre un peu plus longtemps. Eh bien, on a fait l'hypothèse que chaque année, d'ici 2050, l'espérance de vie s'accroîtrait de 2 mois par an. Ce qui est moins que dans le passé. Quand j'étais jeune, quand je faisais des études, il y avait un rapport qui portait le nom d'un monsieur qui s'appelait Larocque, enfin ça n'a pas beaucoup d'importance, et qui était sur la condition des personnes âgées. Eh bien, ce rapport doit dater de 1961. Eh bien, pendant 30 ans, par an, l'espérance de vie a progressé de 2 mois par an. Ça veut dire sur 30 ans, on a gagné 5 ans, si je sais bien calculer. Et là, c'est un peu moins fort. Bon, c'est une hypothèse. Quel est le résultat de cette projection? Alors là, je vais essayer, je ne suis pas très bon pour les graphiques, puis je ne sais pas si vous allez le voir. Donc j'ai dit premièrement que mon solde migratoire n'allait pas bouger. Alors, il est à 100 000, il ne bouge pas, ça c'est pas compliqué, hein. Il est à 100 000. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que le solde naturel, il était à 800 000 le nombre des décès, je reprends toujours les mêmes chiffres, moins le nombre des naissances. Il y a au moins une personne qui suit. Est-ce qu'il y en a une deuxième qui avait vu que je m'étais trompé? Oh, me faites pas de la peine quand même. Merci beaucoup. Le nombre des naissances, il est de 800 000 et le nombre des décès, je vous ai dit, bon, 540 000, quelque chose comme ça. Donc, le solde naturel au départ, il est à 260 000. Donc, 100 000 ici, 260 000 comme ça. C'est comme ça que ça se lit. Eh bien, alors là, je ne vais pas vous faire une courbe exacte, le tout c'est de comprendre. Mon solde naturel, il a tendance, il faut que je prenne que du rouge, il a tendance à diminuer, à diminuer, à diminuer, à diminuer. À un moment donné, il va croiser le solde migratoire. À un moment donné, c'est, pour les démographes, c'est à peu près 2030. Ils disent que c'est 2032. Alors moi, je veux bien, hein. Mais 2030, 2032, tout ça, c'est pas grave. Il suffit de comprendre le raisonnement. Puis ensuite, il va continuer à baisser et il va un jour devenir négatif. Donc ça veut dire qu'à partir de 2032, le solde migratoire, c'est-à-dire ce qui vient de l'extérieur, aura plus d'importance que le solde naturel dans la croissance de la population française. Et que en 2050, la croissance de la population française ne se fera pratiquement plus que par le solde migratoire. Alors vous me direz, comment ça se compare à d'autres pays? Ça se compare pas d'une manière surprenante, c'est partout comme ça. La seule différence, c'est qu'en France, c'est l'exception française, vous avez à la fois une diminution du solde naturel, mais vous avez quand même un taux de fécondité qui va se maintenir. Alors attention, hein, là c'est peut-être un peu difficile. Ce que je vous explique, c'est que le solde naturel se casse la figure. Et je vous ai dit tout à l'heure que le taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme, lui, n'allait pas bouger. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout le monde crève. Donc vous ne faites pas de soucis. Si vous avez des ennemis, ils vont disparaître. Non, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il va y avoir un très grand nombre de morts. Mais pourquoi il va y avoir un très grand nombre de morts? Il va y avoir une catastrophe? Un Tchernobyl? Mais non, c'est pas ça. C'est que tous ceux qui sont nés très très nombreux, on appelle ça le baby boom, et qui non contents d'être nés très très nombreux, ont grandi à une période où on n'arrêtait pas chaque année de leur ajouter un petit morceau d'espérance de vie. Ces espèces d'increvables dont je fais partie, qui peuplent la France, ils vont tous crever. Ça va être formidable. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très surprenant, parce que le taux de fécondité, il va continuer à être élevé, puisque dans mon hypothèse, je l'ai figé à 1,9. Ça veut dire que la pyramide des âges françaises, par le bas, elle va continuer à s'enrichir. En revanche, vous allez avoir, du fait du vieillissement, c'est là que je voulais en venir, un effondrement du solde naturel, et pour cette raison-là, parce qu'il y a le vieillissement, pour cette raison-là, la croissance de la population française ne pourra plus être assurée que par le solde migratoire. Et donc vous êtes dans la situation à supposer qu'elle corresponde à une réalité possible, où vous devez choisir entre stopper la croissance de la population, ou bien ne pas la stopper. Mais si vous stoppez la croissance de la population, alors ça ce ne sont pas les démographes, c'est les économistes qui vous le disent, pas de population, pas de croissance, pas d'espoir de développement économique, comment vous allez payer les retraites, enfin bref, ça pose des quantités de problèmes. Donc, les démographes disent, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, la croissance de la population française ne pourra plus être assurée que par le solde migratoire. Alors là, on a un très beau sujet, parce que, alors ces gens qui vont venir, alors je me demande pas d'où ils viennent, je vais y revenir dans un petit moment, parce que j'ai considéré que ce n'était pas mon sujet. Est-ce qu'ils vont accéder facilement, normalement, à la citoyenneté telle que je l'ai définie tout à l'heure? Et c'est là où je suis au moment de la transition, je vais passer de la première à la deuxième partie. Mais vous avez bien compris que ce sujet n'aurait pas de sens si le solde migratoire n'était pas appelé à être le bois de chauffe du fonctionnement de la démographie française. Ça n'aurait pas de sens, mon sujet. Et vous avez bien compris, inversement, qu'à partir du moment où le solde migratoire joue un rôle essentiel dans le maintien et le développement de la population française, la question de savoir si ces personnes qui vont permettre à la population française de se maintenir vont être des citoyennes ou pas, à part entière ou entièrement à part, c'est ce que je disais en introduction, c'est évidemment une question fondamentale. Alors je vais essayer, non pas d'y répondre, mais de vous donner les éléments qui permettent de traiter le sujet. Et je suis maintenant dans ma deuxième partie, très assoiffé. Pour bien traiter la deuxième partie, non, je voudrais encore vous dire une petite chose. Là, j'ai raisonné que sur des flux. Hein, vous êtes bien d'accord, des flux migratoires. Mais la caractéristique de la France, c'est pas seulement actuellement qu'elle a un taux de fécondité qui est élevé, mais qui ne l'empêchera pas néanmoins d'avoir besoin du solde migratoire pour que la population continue à augmenter. La caractéristique de la France, c'est aussi que c'est un pays d'émigration depuis très longtemps. Et que la France est la seule, un peu à l'exception de la Suisse et un peu à l'exception de l'Allemagne, en Europe, à être dans ce cas-là. L'Europe a longtemps été un continent d'émigration, au sein duquel la France était un pays d'immigration. Si bien que depuis le 19e siècle, des immigrants sont entrés en France. On estime aujourd'hui que les démographes disent 22%, allez, pour vous donner des proportions plus grossières, le quart de la population française a un parent, un arrière-grand-parent qui est né étranger. Et vous voyez bien que selon que vous raisonnez en termes de stocks, que je suis en train de faire maintenant, ou en termes de flux, vous n'avez pas la même image démographique de notre pays. Si vous raisonnez en termes de flux, la France est dans une position qui est très différente de celle des autres pays, en ce sens que les flux migratoires ont beaucoup moins d'importance chez elles que chez les autres, au niveau de la croissance de la démographie, bien que ils soient appelés, dès 2030-2040, à prendre le relais de la croissance naturelle. Mais si vous raisonnez en termes de stock, vous êtes dans un pays où une immigration qui a duré pendant des dizaines et des dizaines d'années a évidemment laissé dans la composition de la population française des caractéristiques. Vous n'avez pas affaire à une perfusion, vous n'avez pas affaire à une intrusion, mais vous avez affaire à une infusion qui a duré très 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 longtemps, si bien que de même que l'on dit de certaines personnes qu'elles ont la science infuse, la France a l'immigration infuse. Et les problèmes d'intégration dont on va parler ne sont peut-être pas les problèmes de ceux qui rentrent aujourd'hui, ils se poseront peut-être demain, ce sont les problèmes de ce que l'on appelle les deuxième et troisième générations. Et le phénomène des deuxième et troisième générations sont des phénomènes qui sont, eux, alors, en revanche, très français, avec un peu nos amis allemands et un peu nos amis suisses. Donc ça, il fallait quand même que je l'ajoute, c'est très important, parce qu'il faut corriger le diagnostic par les flux, par un diagnostic par les stocks. Ceci étant posé, j'en arrive à ma deuxième partie, ça va? Ouais? Bon, je ne suis pas là pour être un animateur du journal de Saône-et-Loire au bal des Rennes. Mais, quand même. La deuxième partie, donc, je vous propose de la traiter comme ça. Ça s'appelle, la première partie, ça s'appelait migration, citoyenneté, c'était les problèmes de définition. La deuxième partie, migration et intégration. Alors, premièrement, quelques mots sur ce qu'est le concept d'intégration pour un sociologue. La sociologie, c'est pas une science très ancienne. C'est une science du 19e siècle. Et les sociologues, finalement, ont existé parce que un certain nombre de personnes se sont demandé comment, dans une société individualiste, issue des révolutions anglaises, américaines et françaises des 17e et 18e siècles, on pouvait maintenir une certaine cohésion sociale. Étant entendu qu'avant ces révolutions, la cohésion sociale, elle était maintenue par la religion et par la tradition. À partir du moment où ni la religion ni la tradition ne sont plus des facteurs de cohésion sociale, qu'est-ce qui peut être un facteur de cohésion sociale? Et c'est là où les sociologues au 19e siècle ont inventé un mot, ils ont dit Ce qui est un facteur de cohésion sociale, c'est l'intégration. Et ce mot, on le trouve, par exemple, en 1897, dans un ouvrage d'un des fondateurs de la sociologie française, qui s'appelle Durkheim. Et son livre s'appelle Le Suicide. Et après, recherche de sociologie, mais je ne suis pas sûr de moi. En tout cas, Le Suicide. Alors, quel rapport avec mon sujet? Durkheim a étudié le taux de suicide dans une population, ou dans diverses populations. Et il est arrivé à la conclusion que le taux de suicide était d'autant moins élevé que cette population était intégrée. Si vous êtes dans une famille intégrée, dans un placard bien rangé, vous n'allez pas vous suicider. Alors vous allez moins vous suicider. Si vous êtes dans une société religieuse très bien organisée, si par exemple vous entrez chez les carmélites, mademoiselle, eh bien vous avez peu de chances de vous suicider. Vous allez rompre avec la vie, mais vous n'allez pas vous suicider. Faut pas confondre. Donc, bon, retenez cette idée, intégration, c'est ce qui remplace pour les sociologues la tradition et la religion comme intégrateur, comme, je me répète, là c'est une tautologie, un mot expliqué par le même mot ou presque, comme force de cohésion sociale. Je fais un saut, j'arrive à 2003, je passe pas mal de choses que j'avais préparées, et je lis un livre d'un monsieur qui a fait parler de lui il n'y a pas très très longtemps, Azouz Begag. Alors ça, j'espère que ça vous dit quelque chose. Ah, Azouz Begag, oui. Ah, enfin, on arrive en terrain de connaissance. Alors, monsieur Azouz Begag a écrit un livre en 2003 qui s'appelle « L'intégration ». Et dans ce livre, il explique qu'il n'aime pas du tout ce mot, parce que on l'utilise justement pour parler de la situation de ces personnes de la deuxième ou de la troisième génération en se demandant est-ce qu'ils sont bien intégrés, pas bien intégrés. Et Azouz Begag se met en colère parce qu'il dit mais intégrés, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr qu'ils sont intégrés, ils sont même nés ici, alors donc ils sont intégrés. Et vous voyez, là on voit poindre le divorce entre l'emploi politique du mot qui commence à être chargé parfois d'un peu de poids péjoratif et le mot que les sociologues continuent à employer. Alors, il est chargé d'un peu de poids péjoratif, ce mot intégration en politique. N'empêche qu'on continue à l'utiliser. Il y a par exemple, vous le savez bien, un ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale. Et il a changé de nom, hein. C'est plus du co-développement, c'est du développement solidaire depuis quelques jours. Bon, ça, donc, tout ça, faites attention aux mots. Pour un sociologue, l'intégration, c'est un processus qu'il étudie. Pour un homme politique, l'intégration, c'est un objectif. L'objectif d'une politique publique. Les politiques publiques d'intégration, il y en a des quantités. D'ailleurs, c'est un truc que je ne comprends pas très bien, parce que toutes les politiques d'intégration ne sont pas entre les mains du ministère de l'Intérieur. L'éducation nationale a une responsabilité première dans l'intégration. Sauf erreur de ma part, monsieur le proviseur, vous n'êtes pas sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Je sais que vous en rêvez d'envie. Mais je crois que ce n'est pas le cas. Le ministre qui est chargé de la politique de la ville, c'est un moyen d'intégration. Il n'est pas sous l'autorité du ministère intérieur. Tout ça pour vous dire que dans le domaine politique, les problèmes de langage n'ont pas, et c'est normal d'ailleurs, la même rigueur que dans le domaine d'une science. Et les sociologues ont longtemps hésité. Est-ce qu'on abandonne le mot intégration sous prétexte qu'il commence à avoir mauvaise réputation? Ils l'ont gardé, simplement. Ils ont un peu précisé ce que ça pouvait signifier. Et le tournant à cet égard, donc je vous ai donné Durkheim, je vous ai donné Azouz Begag. Maintenant, pour vous montrer que je suis très savant, je vais vous donner un nom d'un Américain que personne ne connaît, mais que les sociologues connaissent très bien. Il s'appelle Milton, alors M-I-L-T-O-N, Gordon, G-O-R-D-O-N. Milton Gordon, c'est pas un acteur de cinéma, c'est pas un cow-boy, c'est un sociologue. Et il a écrit un bouquin dans les années 60 qui s'appelle Assimilation in American Life. Alors une remarque déjà. Assimilation, c'est le mot anglais assimilation qu'on traduit parfois en français par assimilation. Mais qu'on préfère aujourd'hui traduire par intégration. Parce que de même qu'aujourd'hui intégration commence à être mal vue, assimilation, c'est encore pire. Assimiler, la définition, elle est dans le livret, là, ça veut dire priver quelqu'un de sa culture. On dit aussi acculturer, lui enlever totalement sa culture d'origine pour, en échange, lui donner la culture de pays d'accueil. Et ça a un petit relent, aujourd'hui, colonial. Donc, on essaye d'éviter le mot assimilation, même si dans le droit positif français, si un jour vous regardez le code civil, les articles sur la nationalité, vous l'y trouverez, mais c'est normal. Donc, pour les Américains, c'est pas la même chose, c'est leur mot, hein, assimilation in American life. Alors, pourquoi je vous dis ça? Pour vous embêter avec une référence de plus? Pas du tout. C'est parce qu'il a fait, c'était pas le premier à le faire, il a utilisé une distinction qui est très importante que font les sociologues entre l'intégration culturelle et l'intégration structurelle. C'est pas lui qui a inventé cette distinction, mais il a expliqué en quoi ces deux intégrations n'allaient pas de pair. Adoption des traits culturels de la société d'installation. L'adoption de la langue, de tout ce qui est un non-dit mais qui fait qu'on se reconnaît entre nous ou qu'on se reconnaît pas. De la culture, j'hésite un peu à le dire parce que ça commence à être un peu dénoté. Moi, ce qui me frappe, c'est que la culture est de plus en plus mondialisée. Et que c'est pas tellement au niveau de la culture que les gens s'opposent, hein, sauf quand ils se déguisent avec des habits d'autrefois. Mais la culture, c'est quoi, hein? Le football, la télé, les séries, bon, il y a des différences. Mais la mondialisation, elle est vraiment en marge. Donc l'intégration culturelle, on va dire, c'est la langue, c'est et puis c'est tous ces codes qui fait que on se reconnaît comme membre du même village ou de la même tribu ou de la même nation, comme vous voudrez, ou qui fait qu'on se reconnaît pas. Et l'intégration structurelle, c'est la participation, alors, aux différentes modalités de la vie politique, on va voter, la vie économique, on a un boulot, la vie sociale, on milite dans des associations, on participe aussi à ce qu'on appelle l'État-providence, c'est-à-dire qu'on touche des allocations ou on paye des cotisations, je ne sais pas, c'est tout ça, l'intégration structurelle. Et pendant longtemps, les sociologues ont cru que, à partir du moment où l'intégration culturelle était acquise, eh bien, l'intégration structurelle suivait. Et l'apport de cet Américain, alors, c'est pas idiot de citer un Américain, parce que les Américains ont été confrontés à des problèmes d'immigration très tôt, et aux problèmes des Noirs, et que donc, ils ont des sociologues qui ont réfléchi sur ces questions très très tôt. Il y a quelques années, là, quand on parlait du plombier polonais, moi, je me souvenais d'un livre d'un sociologue américain du 19e siècle, qui s'appelait « Le paysan polonais ». Je dis ça parce que je sais que j'ai des amis, des concitoyens d'origine polonaise à Mont-Solémine. Eh bien, dès le 19e siècle, il y avait un livre d'un sociologue américain qui s'appelait « Le paysan polonais ». Alors, je ne vous en parle pas, je n'ai pas le temps, mais c'est simplement pour vous montrer que c'était le polonais qui était aux États-Unis, c'était un sujet d'étude. Donc, les sociologues américains, fatalement, avaient une avance considérable sur nous. Donc, ce n'est pas idiot de citer ce monsieur Milton Gordon. Et ce qu'il a dit, c'est que c'est pas parce qu'on était intégré culturellement qu'on était intégré structurellement. Et il a dit les Noirs américains, les Noirs afro-américains sont bien intégrés sur le plan culturel. Ils se sentent américains, mais ils sont pas intégrés sur le plan structurel parce que ça n'est plus, si vous voulez, un problème d'origine, c'est un problème d'inégalité devant l'école, d'inégalité devant le logement et d'inégalité devant l'emploi. Enfin, finalement, c'est les trois choses, hein. Le travail, l'école, l'emploi. Et cette inégalité devant le logement, le travail et l'emploi, certes, des immigrants peuvent en être les victimes, mais ce ne sont pas les seuls à en être les victimes. Et on n'est plus en face d'un problème qui est le problème, qui est la conséquence simplement de l'immigration, mais c'est un problème qui est la conséquence du fait que ma société, mon placard, il est mal rangé. Voilà, pour retenir ça, enfin c'est un peu simplet, mais je crois que c'est pas forcer le trait. c'est pas grave, la langue s'est faite pour évoluer, c'est pas dramatique. De toute manière, comme je vous l'ai expliqué, la mort va tout résoudre. Donc, ceux qui se plaignent sont voués à disparaître. En revanche, les problèmes d'intégration structurelle, c'est-à-dire ceux qui sont liés aux inégalités, malheureusement, même quand on sera mort, ils seront toujours là. Donc, je peux continuer maintenant? Parce que là, c'était vraiment pour jouer les prolongations. Hein. Bon. Alors, deuxième partie, l'intégration à la société d'accueil. Là, je vais faire un peu plus court. Si vous voulez, je préfère plus long. Ça se pose comment? Petit 1, l'accès à la citoyenneté politique. Est entendu que la citoyenneté politique, c'est la qualité de citoyen, mais là, je parle du citoyen qui exerce un droit de vote. Donc, des choses élémentaires, pas de citoyenneté politique sans nationalité. Si j'avais le temps, je vous expliquerais que les deux termes qui vont de pair, apparemment, peuvent être disjoints. Je pourrais vous donner des exemples, mais je ne le fais pas. En ce qui concerne les immigrés, alors, hein, retenez ma définition de tout à l'heure. Hein, l'immigré, c'est celui qui est entré en France, qui est né à l'étranger, qui est là depuis plus d'un an. La question de savoir si il accède ou non à la citoyenneté politique, pour l'essentiel, c'est réglé par une procédure qu'on appelle la naturalisation. C'est-à-dire qu'il demande que la citoyenneté française lui soit accordée, et ça s'appelle la naturalisation. Alors là, malgré tout, je ne résiste pas, mais vraiment je ne résiste pas, au plaisir de vous dire à quel point je trouve que ce mot n'est pas bien choisi. Le mot naturalisation, c'est un mot qui existe dans deux lexiques. On retrouve toujours les problèmes de vocabulaire. Le lexique des sciences du vivant, comme on dit de vos jours, et puis accessoirement de la taxidermie, c'est-à-dire quand on empaille non pas la grand-mère, mais le perroquet de la famille. Et puis le lexique juridique. Eh bien, naturaliser, ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire deux choses. Ça veut dire que vous allez empailler votre culture d'origine. Ça, c'est la taxidermie. Et puis, deuxièmement, que vous allez changer de nature. Et si vous devez changer de nature, ça veut dire qu'il existe une nature italienne. Je sais bien qu'il y a une nature creuse de thune, une nature monsolienne. Et que ça n'a rien à voir. Mais enfin, quand même! Que vous allez changer de nature, que vous étiez italien, vous allez devenir français, que vous étiez espagnol, vous allez devenir français. Il n'y a qu'une seule nature, mesdemoiselles et messieurs, c'est la nature humaine. Donc le mot naturalisation, il est épouvantablement mal choisi. Si vous pouviez, quand on sera mort, le supprimer, je vous en serais infiniment gré. Trouvez-en un autre. Bon, ça, c'était pour les immigrés, c'est la naturalisation. Maintenant, pour les gens de la deuxième, troisième génération, c'est un peu différent. C'est la question de savoir si le fait d'être né sur le territoire français va leur permettre d'acquérir automatiquement la citoyenneté française. Si la réponse est oui, eh bien on dit que c'est le droit du sol qui l'emporte, puisque c'est le fait d'être né sur un sol, quelle que soit la nationalité d'origine des parents, qui fait que vous êtes de la nationalité de ce sol, ou sinon on dit que c'est pas le droit du sol qui l'emporte. Alors on a l'habitude de dire que depuis 1889, c'est le droit du sol qui l'emporte. C'est pas vrai! C'est un droit du sol différé. Si vous êtes de parents étrangers et si vous naissez sur le territoire français, il vous faudra attendre la majorité pour être français. Et lorsqu'on a souvent opposé le droit du sol français et le droit du sang allemand, qui d'ailleurs a, depuis quelques années, compose avec le droit du sol, ça m'a toujours mis en colère. Parce qu'on a l'art d'expliquer aux autres qu'on est les meilleurs, alors qu'en fait on n'est pas en accord avec nos principes totalement. Et le droit du sol, ça n'existerait vraiment que si l'enfant né sur le territoire français est de nationalité française. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut pas? J'en sais rien. Enfin, j'ai ma petite idée. Mais il faut que je tienne dans mon temps de parole. Mais en tout cas, le droit du sol, c'est tout au plus le droit du sol différé. Et avec de temps en temps des lois qui modifient. Bon, rien que sur la nationalité, vous avez des textes comme ça, c'est absolument incompréhensible. En tout cas, si vous êtes immigré, vous devenez français comment? Naturalisation. Si vous êtes né en France, vous êtes français, c'est le droit du sol, mais l'idée générale, c'est qu'il vous faut quand même, si vos parents sont étrangers, attendre votre majorité. Maintenant, je voudrais vous parler d'un autre sujet pour vous distraire, c'est la question du port du voile. Bon, j'aurais pu choisir un autre sujet. Je veux dire par là que souvent, on va estimer que pour être un vrai français, il faut avoir un certain comportement. Et par exemple, un comportement vestimentaire. Alors pour vous rassurer, c'est pas typiquement français. Quand Atatürk a décidé que la Turquie devait devenir un pays laïque, il a interdit aux hommes, pour vous montrer qu'il n'y a pas que les femmes qui sont concernées, de porter un magnifique petit chapeau qui était généralement rouge, que les Marocains appellent un fesse, mais qu'on appelait en Turquie un tarbouche. Et ce tarbouche était très pratique, parce que quand on entrait dans la mosquée, on pouvait faire sa prière, puisqu'il n'y avait pas de visière. Si bien que les laïcs se sont empressés de porter une visière, c'est depuis ce temps-là que les Turcs mettent une visière, et c'est pour ça que les enfants des banlieues qui en ont eu marre ont retourné la casquette et ont mis la visière à l'envers. Enfin, je ne sais pas si c'est pour ça. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer que les histoires de casquettes, les histoires de voiles, je vais venir, c'est un peu curieux. Alors, en quoi, non pas ça me pose un problème, mais si vous y réfléchissez, je vous propose simplement de penser aux choses suivantes. Bon, la première, c'est que on a beaucoup dit, on a beaucoup expliqué dans les discours officiels que c'était à cause de la laïcité. Alors, c'est possible, mais historiquement, la laïcité, d'abord, un laïc, c'est quelqu'un qui n'est pas un clerc. Au sein de l'Église, il y a des laïcs, il y a des clercs. Et la laïcité, c'est l'idée que, puisqu'on est laïc, on n'est pas comme un clerc, donc on ne vit pas au clerc. Et donc, si on est laïc, on ne va pas obéir aux gens qui vous cassent les pieds avec leur conception religieuse et morale. Maintenant, vous êtes tout à fait libre, sur le plan de votre vie privée, d'accueillir ces conceptions. Mais c'est votre vie privée. Donc, la laïcité, c'était la laïcité de l'État. L'État est laïc, il n'obéit pas au clerc de quelque religion que ce soit. Historiquement, c'était la religion catholique, même pas chrétienne, parce que dans les chrétiens, il y avait les protestants, et que, comme vous le savez, les guerres entre les protestants et les catholiques ont fait que, elles avaient eu lieu au XVIe siècle, au XXe siècle, les protestants étaient plutôt des laïcs convaincus. Ils avaient de mauvais souvenirs des catholiques. Donc, quand on leur disait, il ne faut pas que l'État subisse l'influence d'une religion, ils étaient évidemment d'accord. Et par voie de conséquence, on dit que le service public est laïque. Mais on n'a jamais dit que les usagers du service public étaient laïcs. Moi, j'ai des copains médecins qui me disent, ça me casse les pieds quand je reçois quelqu'un à l'hôpital, la femme ne veut pas se déshabiller devant moi. Bon, vous pensez ce que vous voulez. Moi, ce que je vous explique, c'est que le service public, il doit aussi parfois s'adapter. Et qu'en tout cas, c'est pas la laïcité à mes yeux. Parce que la laïcité, c'est la laïcité du service public, c'est pas la laïcité des usagers du service public. Alors, maintenant, il y a un autre sujet différent pour clarifier les choses. Vous avez une loi qui vous dit qu'il ne faut pas porter à l'école des signes distinctifs religieux. Alors, la loi, c'est la loi. Donc, elle s'applique sur le territoire de la République, il n'y a pas de problème. Et notamment, elle s'applique sur le territoire du lycée. Il est normal qu'un proviseur, puisque c'est la loi, dise « je ne veux pas que vous entriez avec votre voile ». Ça, c'est tout à fait logique. Je ne me place pas au niveau de l'obéissance de la loi. Je ne me place pas au niveau de l'application de la loi. Je m'inscris simplement un peu en faux, et tout à l'heure vous verrez que je fais le contraire dans un autre raisonnement, mais vous n'êtes pas obligé de me suivre, contre l'idée que tout ça, c'est un problème de laïcité. Pour moi, ce n'est pas un problème de laïcité. Et dans la première partie de ma vie, je ne travaillais pas à la Cour des comptes, je travaillais au Conseil d'État, et ça m'est arrivé d'être rapporteur, parce que ça m'est arrivé d'avoir des décisions de responsables d'établissements scolaires qui avaient interdit l'accès à des jeunes filles qui étaient voilées à leur établissement, à une époque où la loi n'interdisait pas le port d'un signe ostensible. Et le Conseil d'État a annulé la décision du responsable de l'établissement au motif que dans le cas d'espèce, que c'est toujours un cas d'espèce, selon le Conseil d'État, qui a pu se tromper, c'est évident, eh bien c'était pas de nature à causer un trouble à l'ordre public. Et cette jurisprudence du Conseil d'État, vous savez d'où elle vient? Elle vient des années 1905, quand il y avait des processions. Dans toutes les communes de France, pour les grandes fêtes religieuses catholiques, on faisait des processions. Et vous aviez des maires qui ne pouvaient pas sentir les signes extérieurs de religiosité sur la voie publique et qui interdisaient les processions. Parce que c'était pas laïque, au nom de la République. Alors qu'on était sur la voie publique, l'espace public, c'est pas pareil que le service public. Eh bien, la plupart des décisions de ces maires étaient annulées. Sauf quand le Conseil d'État estimait qu'en se promenant dans les rues d'une ville en procession, on risquait de troubler l'ordre public parce que ceux qui n'étaient pas d'accord allaient leur jeter des boulons, arriver avec des matraques et provoquer des bagarres. C'est ainsi que quand les protestants en Irlande traversent certains quartiers catholiques, ben il est évident que là c'est de la provocation. Et que donc si le Conseil d'État avait, il n'est pas compétent pour l'Irlande, mais à être saisi d'une interdiction d'autoriser une procession protestante irlandaise parce qu'elle traverse un quartier catholique, à mon avis, le Conseil d'État n'annulerait pas la décision d'interdiction. Donc c'est tout ça pour vous dire, réfléchissez, laïcité, c'est la laïcité du service, c'est pas nécessairement la laïcité des usagers, mais à partir du moment où une loi existe, eh ben elle s'applique bien entendu à l'intérieur d'un établissement scolaire. Mais personnellement, si on me dit on a voulu protéger les femmes, c'est possible, il y a des écrits dans les deux sens, mais ça c'est pas un problème de laïcité, c'est un problème important, mais c'est pas un problème de laïcité. Donc moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est le fait qu'on se fonde, qu'on compromette, si je puis dire, pardonnez-moi, la laïcité qui peut être ouverture dans cette affaire. Et je vais vous donner un autre exemple maintenant, c'est la question de la polygamie. Vous allez voir que j'arrive à une conclusion complètement inverse, et ça me permettra de vous présenter ce qu'on appelle les intégrationnistes et ce qu'on appelle les multiculturalistes. La polygamie, alors c'est un exemple qui est différent, ça s'est posé pour les étrangers, c'est pas mon sujet. Mon sujet c'est l'intégration, et je vous ai expliqué que du point de vue de la démographie, ça voulait dire première, deuxième, troisième génération. C'est-à-dire des gens qui sont français. Tandis que là, polygamie, je ne vais pas parler de gens qui sont français, je vais parler d'étrangers qui rentrent en France, qui n'ont pas la nationalité française, et qui sont dans le champ de ce qu'on appelle la police des étrangers. Et ça, j'en ai pas traité. Hein. Les conditions d'entrée des étrangers de séjour en France, j'en ai pas traité. On peut en parler dans questions-réponses, mais je n'en ai pas traité. Parce que, pour moi, c'est bien lié à l'intégration, mais c'est quand même en soi un sujet. Mais si je le prends, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. En 1993, il y a une loi qui a donné au préfet la possibilité de retirer leur carte de séjour, alors ça c'est pour les étrangers, hein, c'est pas pour les Français, à des gens qui vivaient en France, qui travaillaient en France depuis longtemps, mais qui étaient en état de polygamie. Et un anthropologue, je donne le nom, mais c'est pour montrer qu'il a étudié, ça s'appelle Jacques Lemierre, mais ne le retenez pas, il n'a pas encore accédé à l'immortalité comme mon Milton Gordon, ou comme mon Durkheim, ou comme mon Azouz Begag, hein. Vous pouvez oublier Lemierre, mais ça fait rien. Il a fait une étude, et il a constaté que dans la région de Maubeuge, il y avait des ouvriers qui montaient des voitures Renault, des Kangoo, qui travaillaient dans l'entreprise depuis 30 ans, mais qui n'étaient pas français, donc ça veut dire qu'ils avaient des titres de séjour qui étaient renouvelés, mais qui étaient des titres de séjour de longue durée, de 10 ans, et quand ils se sont présentés au renouvellement après la loi de 93, comme ils avaient contracté avant de venir dans leur pays d'origine un mariage traditionnel, polygame, eh bien, on n'a pas renouvelé le titre de séjour de 10 ans, on leur a donné un titre de séjour d'un an. Quant à l'épouse, elle a été privée de son titre de séjour, privée de travail et privée de retourner chez elle. Et pour vous montrer que je ne suis pas là pour attaquer telle ou telle loi, ça c'était M. Pasqua, mais quand M. Jospin est arrivé au pouvoir, enfin du moins son gouvernement, donc ça c'est en avril 2001, je ne sais plus, en 1993, j'ai trouvé une circulaire qui contraignait les secondes épouses soit à divorcer, soit à se séparer physiquement de leur mari, soit à rentrer au pays. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que tu en penses ? Alors c'est là où j'ai envie d'introduire le débat entre les intégrationnistes et les multiculturalistes, simplement à partir de cet exemple. Les intégrationnistes, ce sont ceux qui pensent que le rôle premier de l'État, c'est de donner à chacun les moyens de participer à la vie commune en partageant les mêmes normes de vie. J'ai pas choisi le mot valeur, j'ai bien réfléchi. Hein. De toute façon, le professeur de philosophie vous dira qu'il ne peut pas y avoir de valeur sans normes. Alors. Donc ce sont les gens qui partagent les mêmes normes de vie. Donc les assimilationnistes vont vous dire, on veut bien accueillir sur le territoire français tout le monde, si vous voulez, mais ils ne pourront s'intégrer, ils ne seront intégrés que s'ils acceptent nos normes de vie. Et puis les multiculturalistes vous disent, la fonction de l'État, c'est pas ça, c'est d'abord de donner à chacun les moyens de vivre conformément à son identité authentique, à ce qu'il est authentiquement. Alors, les multiculturalistes mettent un peu d'eau dans leur vin, et ils disent, oui, d'accord, alors ce qu'on propose, c'est que chacun ait droit à une identité culturellement différenciée, mais que ce droit reste compatible avec l'ensemble des droits de l'homme. Et alors là, moi, je pose la question, est-ce que l'égalité statutaire des hommes et des femmes, ce n'est pas un droit de l'homme ? Je réponds oui. Vous n'êtes peut-être pas de mon avis, vous répondrez non. Moi, je réponds oui. Donc, je n'ai pas du tout, vis-à-vis de cette affaire de la polygamie, la même réaction que vis-à-vis de l'affaire du port du voile. À ceci près qu'il faut savoir, dans la gestion des affaires humaines, ménager des transitions. Et quand, pendant 30 ans, 40 ans, on a toléré une situation, tolérée au regard de nos propres conceptions des droits de l'homme, il faut toujours éviter de prendre un virage à 90 degrés. C'est vrai pour les bagnoles, vous vous cassez la gueule. C'est vrai pour la gestion des affaires humaines. Bon, mais je crois que je vais m'arrêter. J'en ai encore plein comme ça. Mais alors, ça c'était la deuxième partie, intégration à la société d'accueil, en vous donnant quelques exemples des problèmes que ça pouvait poser. Et intégration de la société d'accueil, ben, je vais simplement me répéter pour pas abuser. L'intégration à la société d'accueil est indissociable de l'intégration de la société d'accueil. L'accueil des migrants à la citoyenneté dépend de leur intégration à la société d'accueil, et l'accueil des migrants à la société d'accueil dépend de l'intégration de cette société, c'est-à-dire de la force du principe d'intégration de cette société. Et un dernier mot, parmi les principes d'intégration de la société, il y en a un qu'on a rencontré tout à l'heure au début, c'est la nation. Je vous ai expliqué que la communauté des citoyens libres et égaux qui était souveraine s'appelait la nation. Et je voudrais vous dire un petit mot du concept d'identité nationale. J'ai essayé de voir d'où ça pouvait venir historiquement. Alors j'en ai parlé tout à l'heure avec un de vos professeurs. À l'époque de la Révolution française, d'abord on ne parlait pas de nationalité. Hein. On parlait de citoyenneté, on ne parlait pas de nationalité. Ça ne faisait pas partie du vocabulaire. Et le vocabulaire est entré en France, bon, d'après tout ce que j'ai pu lire, et je ne l'ai pas lu dans des écrits d'historiens, mais d'anthropologues, en 1825. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1825? On a traduit le livre d'un Allemand s'appelait, alors là je crois que je vais vous l'écrire, parce que je ne sais pas le prononcer. Je crois que ça se dit Yann, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, J-A-H-N. Son prénom, c'était Friedrich. Et, alors, je l'écris, hein. Je l'appelle. Son livre, c'était Deutsches Volkstum. Alors, D-E-U-T-S-C-H-E-S. Volkstum, rigolez pas comme ça quand je parle allemand, V-O-L-K, S-T-H-U-M, c'est ça?
Le H, c'est une survivance.
Ah bon, d'accord.
La nationalité allemande.
Voilà. Et alors, ce mot de Volkstum, paraît-il, à l'époque, était un néologisme. Il avait été inventé par cet écrivain allemand parce qu'il ne voulait pas utiliser le mot nation qui existait bien, mais qui était un mot de l'ennemi, c'était un mot de la Révolution française. Et il voulait surtout pas l'utiliser, il voulait pas parler de la nation allemande. Alors il a parlé de la nationalité allemande, attention, on n'avait pas encore inventé le mot nationalité. Mais quand on a traduit en 1825 cet ouvrage, on l'a traduit par recherche sur la nationalité. Et puis ça, le titre était beaucoup plus long que ça, mais le mot était lâché. Et nationalité, ça voulait dire à l'époque l'ensemble des caractéristiques d'une nation, l'ensemble des critères qui permettent de définir une nation, les caractéristiques d'une nation. Et quand vous dites que vous avez la nationalité française, ça n'a pas le même sens, hein. J'ai la nationalité française, ça veut dire que j'ai une relation vis-à-vis de l'État qui fait que j'ai la nationalité française, j'ai une carte d'identité nationale. La nationalité, pour moi, c'est une identité collective. Vous avez une identité individuelle, vous mesurez 1m65, vous avez des yeux bleus, vous avez des cheveux blonds, et puis, voilà, ça, c'est l'ensemble des caractéristiques qui définissent votre identité personnelle. Et puis, à côté de ça, vous appartenez à un certain nombre de groupes. Par exemple, vous faites partie de Monceau Féminin. Ben, si vous êtes une fille, si vous faites partie de Monceau Féminin, vous avez une identité collective, je suis membre de Monceau Féminin. Et en plus, si vous êtes membre de la France, vous avez la nationalité française, c'est une de vos identités collectives. C'est pas ça dont je veux parler là, c'est pas une identité collective d'un individu, c'est soi-disant l'identité d'une nation. Et lorsqu'il s'agit, quel est le contraire d'identité? Identité, ça veut dire être toujours pareil au même. Je suis toujours pareil à ce que je suis. Le contraire d'identité, c'est altérité. Et quand on sait que la croissance de la population française dépend du solde migratoire, c'est-à-dire de l'accueil de gens qui peuvent pas être pareils que moi, puisqu'ils sont différents, Est-ce que le concept d'identité nationale n'est pas un concept qui peut faire obstacle à leur intégration? Alors j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais c'était la dernière chose que je voulais vous dire, sauf évidemment question-réponse, et j'espère vous avoir pas trop ennuyé, que c'était pas trop abstrait, et on pourrait encore en parler pendant des heures, mais là, j'aurais trop soif et vous n'écouteriez plus. Merci.